Tout a été tellement intense au cours des premières semaines après mon entrée en fonction que j'ai à peine eu le temps de m'attarder sur la totale et constante étrangeté de mon nouveau quotidien. Mais ne vous y trompez pas, c'était étrange. Il y avait le fait que tout le monde se levait quand j'entrais dans une pièce. « Asseyez-vous », grommelais-je en disant à mon équipe que ce genre de formalité n'était pas mon style. Ils souriaient en hochant la tête et refaisaient exactement pareil la fois suivante. Il y avait le fait que mon prénom avait pratiquement disparu, utilisé désormais uniquement par Michel, nos familles et quelques amis proches comme Marty. À part ça, c'était « Oui, monsieur le Président » et « Non, monsieur le Président ». Même si, avec le temps, mes collaborateurs ont adopté le terme plus familier de « POTUS », « President of the United States », lorsqu'ils s'adressaient à moi ou parlaient de moi dans l'enceinte de la Maison-Blanche. Il y avait le fait que mon emploi du temps quotidien était soudain devenu le théâtre de lutte en coulisses entre membres du staff, agences, groupes, chacun voulant que sa cause soit entendue en priorité, ses problèmes traités, le produit de tout cela recraché par une machinerie cachée dont je ne saisissais jamais tous les rouages. Entre-temps, j'ai découvert que chaque fois que les agents du Secret Service murmuraient dans leur micro au poignet, ils rendaient compte de mes déplacements sur un canal radio suivi en permanence par des employés. Renegade se dirige vers la résidence. Renegade dans salle de crise, ou Renegade dans soute secondaire, leur manière pudique de dire que j'allais aux toilettes. Et puis, il y avait l'omniprésent pool itinérant de correspondants accrédités, une horde de journalistes et de photographes qu'il fallait alerter chaque fois que je quittais le complexe de la Maison-Blanche et qui me suivaient dans un minibus fourni par le gouvernement. Ces dispositions étaient compréhensibles en cas de déplacement officiel, mais j'ai bientôt découvert qu'elles s'appliquaient en toutes circonstances. Quand Michel et moi sortions au restaurant, quand je me rendais à la salle de sport pour jouer au basket, ou quand je prévoyais d'assister à un match de foot de l'une de mes filles dans les environs. Ainsi que Gibbs, qui était désormais mon porte-parole, l'expliquait, la logique était que le moindre déplacement du président était fondamentalement susceptible d'intéresser les médias, qui se devaient d'être sur place au cas où quelque chose d'important se produirait. Et pourtant, je n'ai pas souvenir qu'ils aient capturé une image beaucoup plus passionnante que moi sortant d'une voiture en pantalon de survêtement. Ce qui a eu pour effet d'éliminer le moindre reliquat d'intimité que j'aurais pu avoir en m'aventurant au-delà des grilles de la Maison-Blanche. Cela me chiffonnait un peu, et j'ai demandé à Gibbs la première semaine si nous ne pouvions pas éviter de prévenir la presse lorsque je sortais pour un motif personnel. « Mauvaise idée », a dit Gibbs. « Pourquoi ? Les journalistes entassés dans le minibus doivent bien savoir que c'est une perte de temps. » « Oui, mais pas leur patron », a répondu Gibbs. « Et souvenez-vous qu'on a promis d'être le gouvernement le plus transparent. » Si vous faites ça, la presse va piquer une crise. Je ne parle pas des affaires publiques, ai-je objecté. Je parle des sorties en amoureux avec ma femme, ou lorsque je vais prendre l'air. J'avais lu suffisamment de choses sur mes prédécesseurs pour savoir que Teddy Roosevelt avait jadis campé durant 2 semaines au parc de Yellowstone, se déplaçant à cheval. Je savais que pendant la Grande Dépression, Franklin Roosevelt avait passé des semaines en bateau à longer la côte est jusqu'à une île au large de la Nouvelle-Écosse. J'ai rappelé à Gibbs que Harry Truman avait fait de longues promenades solitaires dans les rues de Washington au cours de sa présidence. « Les temps ont changé, monsieur le Président », a expliqué Gibbs avec patience. « Écoutez, c'est à vous de décider, mais je vous préviens, se débarrasser du groupe des correspondants créera un pataquès dont on n'a vraiment pas besoin ces temps-ci. Et puis, il sera plus difficile pour moi d'obtenir leur coopération concernant vos filles. » Je m'apprêtais à répondre, mais j'ai fermé mon clapet. Michel et moi avions déjà précisé à Gibbs que notre priorité absolue était que les journalistes laissent nos filles tranquilles quand elles vaquaient à leurs occupations. Gibbs savait que je ne ferais rien qui risquerait de remettre cela en question. Ayant réussi à mater ma rébellion, il a eu la sagesse de ne pas jubiler. Il s'est contenté de me donner une petite tape dans le dos avant de retourner dans son bureau, me laissant seul à ruminer dans ma barbe. Il faut reconnaître, et c'est tout à leur honneur, que les médias ont considéré Malia et Sacha comme hors de leur périmètre pendant toute la durée de ma présidence. Un acte de simple savoir-vivre que j'ai énormément apprécié. Mon équipe m'a accordé une modeste concession en termes de liberté. J'ai pu garder mon BlackBerry, ou plutôt on m'en a donné un nouveau, un appareil spécialement modifié, approuvé après tout de même plusieurs semaines de négociations avec divers membres de la cybersécurité. Je pouvais ainsi envoyer et recevoir des emails, mais sur la base d'une 20aine de contacts seulement, et le micro interne et la prise du casque avaient été enlevés, si bien que la fonction téléphone ne marchait pas. Michel remarquait en plaisantant que mon BlackBerry était comme ses jouets pour les tout-petits. On peut appuyer sur des boutons, ça fait des bruits, des voyants s'allument, mais en fait, il ne se passe rien. Compte tenu de ses limitations, la plupart de mes contacts avec le monde extérieur passaient par 3 jeunes assistants installés dans l'ovale extérieur. Reggie, qui avait accepté de rester mon assistant personnel, Brian Mosteller, un homme de l'Ohio méticuleux qui organisait tous mes événements quotidiens dans l'enceinte de la Maison-Blanche, et Katie Johnson, qui avait été l'assistante pragmatique de David Plouffe pendant la campagne et qui désormais assumait la même fonction pour moi. À eux trois, ils étaient mes gardiens officieux et mon respirateur artificiel personnel. Ils transféraient les appels téléphoniques, programmaient mes coupes de cheveux, me préparaient les documents pour les réunions, faisaient en sorte que je sois à l'heure, m'alertaient des dates d'anniversaire des membres de l'équipe et achetaient des cartes pour que je les signe, me prévenaient quand j'avais une tache de soupe sur ma cravate, supportaient mes diatribes et mes mauvaises blagues, s'arrangeaient plus généralement pour que je sois en état de fonctionner au cours des journées de 12 à 16 heures. Le seul locataire de l'ovale extérieur ayant plus de 35 ans était Pete Souza, notre photographe officiel. Dans la force de l'âge, compact de carrure, un teint mat signalant ses racines portugaises, Pete en était à son deuxième poste à la Maison-Blanche, ayant déjà été une première fois photographe officiel du gouvernement Reagan. Après avoir enseigné et travaillé en freelance, Pete avait atterri au Chicago Tribune, où il avait couvert les débuts de la guerre en Afghanistan, ainsi que mes premiers pas au Sénat. Il m'avait tout de suite plu. Outre son talent de photojournaliste pour saisir des histoires complexes en une seule image, Pete était intelligent, modeste, parfois grincheux, mais jamais cynique. Après notre victoire, il a accepté d'intégrer l'équipe, à condition de pouvoir me suivre partout sans restriction. J'ai accédé à sa demande, c'est dire la confiance que j'avais en lui, et durant les 8 années qui ont suivi, Pete est devenu une présence constante, évoluant aux confins de chaque réunion, témoin de chaque victoire et de chaque défaite, se baissant de temps en temps dans un craquement de genoux pour trouver le bon angle, sans émettre d'autre bruit que le perpétuel cliquetis de l'obturateur de son appareil. Il est aussi devenu un bon ami. Dans ce nouvel habitat curieusement hermétique qui était le mien, l'affection et la confiance que j'avais pour ceux avec qui je travaillais et le soutien qu'ils nous témoignaient à moi et à ma famille étaient une véritable aubaine. Cela était vrai de Ray Rogers et de Quincy Jackson, deux jeunes de la marine affectés comme valets au bureau ovale, qui servaient des rafraîchissements aux visiteurs et me préparaient chaque jour en un tournemain un solide déjeuner dans la minuscule kitchenette située dans un coin à côté de la salle à manger. Ou des membres de l'agence des communications de la Maison-Blanche, et parmi eux deux frères, Nate et Luke Emory, qui en un clin d'œil installaient les pupitres de conférence, les prompteurs et les vidéoprojecteurs. Ou de Barbara Swan, qui apportait le courrier chaque jour sans jamais se départir de son sourire, toujours avec un mot gentil pour chacun. Et cela était vrai du personnel de la résidence. Les nouveaux quartiers où ma famille s'était installée ressemblaient moins à un foyer qu'à une longue série de suites dans un hôtel boutique, avec salle de sport, piscine, cour de tennis, salle de cinéma, salon, bowling et cabinet médical. Le personnel travaillait sous la direction de l'administrateur général Steve Rotchon, un ancien vice-amiral des gardes-côtes, qui avait été embauché par les Bush en 2007, devenant ainsi le premier afro-américain à occuper ce poste. Une équipe de nettoyage passait chaque jour, veillant à ce que l'endroit soit toujours impeccable. Une équipe tournante de chefs cuisiniers préparait des repas pour notre famille, ou, comme cela arrivait parfois, pour une centaine d'invités. Des majordomes avaient pour tâche de servir ces repas ou quoi que ce soit d'autre. Des standardistes étaient prêts à transmettre des appels à toute heure et s'assuraient que nous nous réveillions le matin. Des liftiers attendaient dans le petit ascenseur chaque matin pour me faire descendre au travail et me saluaient le soir à mon retour. Des techniciens étaient toujours sur place pour réparer ce qui était cassé, et des fleuristes s'arrangeaient pour que chaque pièce soit décorée de magnifiques fleurs fraîchement cueillies, toujours variées. Il convient de souligner ici, parce que les gens étaient souvent surpris de l'apprendre, que la First Family paie de sa poche tout meuble nouveau, de même que tout ce qu'elle consomme. Des provisions de nourriture au papier toilette, et qu'elle rémunère le personnel supplémentaire quand le président organise un dîner privé. En revanche, le budget de la Maison-Blanche prévoit des fonds pour que le nouveau président fasse refaire le bureau ovale. Mais le cuir des fauteuils et du canapé avait beau être un peu usé, j'ai jugé qu'une période de récession historique n'était peut-être pas le meilleur moment pour passer en revue de nouveaux échantillons de tissu. Et pour le président, enfin, il y avait un trio de valets personnels, à commencer par un homme taillé comme un ours à la voix douce qui s'appelait Sam Sutton. La première journée que nous avons passée à la Maison-Blanche, en entrant dans le dressing traversant qui reliait notre chambre à ma salle de bain, je me suis rendu compte que chacune des chemises que je possédais et chaque pantalon étaient parfaitement repassées et suspendues, que mes chaussures étaient tellement cirées qu'elles resplendissaient, que chaque paire de chaussettes était rangée, chaque caleçon plié, ordonné, comme sur un étalage de grand magasin. Le soir, à mon retour du bureau ovale, quand j'ai suspendu mon costume, à peine froissé dans la penderie, une amélioration notable par rapport à ma pratique normale consistant à l'accrocher à la première poignée de porte ce qu'a l'art de mettre Michel en rogne, Sam s'est approché et m'a expliqué gentiment mais fermement qu'il serait préférable que dorénavant je lui laisse le soin de s'occuper de mes vêtements. Disposition qui a non seulement amélioré mon apparence extérieure, mais a sans aucun doute été bénéfique à mon mariage. Rien de tout cela n'était pénible, bien sûr. Et pourtant, c'était un peu déconcertant. Pendant la campagne, Michel et moi nous étions habitués à être tout le temps entourés de gens, mais ils n'avaient pas occupé notre maison, et bien évidemment, nous n'avions pas l'habitude d'avoir des majordomes et des femmes de chambre. Dans cet environnement nouveau, exceptionnel, nous avons craint que les filles ne soient trop choyées et ne prennent de mauvaises habitudes. Aussi avons-nous institué une règle, appliquée avec un succès tout relatif. Elles devaient ranger leur chambre et faire leur lit chaque matin avant d'aller à l'école. Ma belle-mère, nullement disposée à se faire servir, a demandé qu'on lui apprenne à utiliser les machines à laver et les sèches-linges pour pouvoir s'occuper elle-même de son linge. Me sentant moi-même un peu gêné, je me suis efforcé d'éviter l'accumulation dans la salle des traités, qui me servait de bureau personnel, de piles de livres, journaux et autres bricoles en tout genre caractéristiques de mes trous antérieurs. Petit à petit, grâce à la générosité et au professionnalisme sans faille du personnel, nous avons pris nos marques. Nous sommes devenus tout particulièrement proches de notre équipe régulière de chefs cuisiniers et de majordomes, avec qui nous étions en contact quotidien. Comme mes valets, ils étaient tous noirs, latinos ou d'origine asiatique, et à une exception près, tous étaient des hommes. Christetta Comerford, une américaine d'origine philippine, avait été récemment nommée cuisinière en chef à la Maison Blanche, la première femme à occuper ce poste. Et si tous se réjouissaient d'avoir des boulots sûrs, bien payés, assortis d'avantages sociaux, il était difficile de ne pas constater que leur couleur de peau renvoyait à d'autres temps où le rang social était clairement démarqué et où ceux qui occupaient le poste de président se sentaient plus à l'aise dans l'intimité s'ils étaient servis par des gens qu'ils ne considéraient pas comme leurs égaux et qui, par conséquent, ne pouvaient pas les juger. Les majordomes qui avaient le plus d'ancienneté étaient deux hommes noirs au ventre rond, doté d'un humour tranchant et de la sagesse de ceux qui sont aux premières loges de l'histoire. Buddy Carter était là depuis la toute fin de la présidence Nixon. Il s'était d'abord occupé des invités de prestige à Blair House avant d'obtenir un poste dans la résidence. Von Everett était en fonction depuis Reagan. Ils évoquaient les premières familles qui nous avaient précédés avec la discrétion de rigueur et une véritable affection. Mais sans avoir besoin de le formuler à voix haute, ils ne cachaient pas les sentiments que leur inspirait le fait d'avoir à s'occuper de nous. Cela se voyait à la façon dont Von acceptait les câlins de Sacha ou au plaisir que prenait Buddy à apporter en douce à Malia un supplément de crème glacée après dîner, à l'aisance avec laquelle il discutait avec Marianne et à la fierté dans leurs yeux quand Michel portait une robe particulièrement ravissante. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau aux frères de Marianne, les oncles de Michel. Et avec cette proximité, il nous témoignait encore plus de sollicitude, et non pas le contraire, refusant qu'on rapporte nos assiettes à la cuisine, attentif au moindre indice trahissant un service qui ne serait pas parfait de la part du personnel de la résidence. Il nous faudrait insister pendant des mois avant que les majordomes acceptent d'échanger leur smoking contre un pantalon plus décontracté et un polo pour servir nos repas. « Nous voulons juste nous assurer que vous êtes traité comme n'importe quel autre président », a expliqué Von. « C'est vrai », a renchéri Buddy. « Vous voyez, vous et la First Lady, vous ne vous rendez pas vraiment compte de ce que ça signifie pour nous, monsieur le président, de vous avoir ici. » Il a secoué la tête avant de répéter « Vous ne vous rendez pas compte. » Avec le soutien de la présidente Pelosi et de Dave Obey, président de la commission des dotations budgétaires de la Chambre des représentants, et grâce aux efforts héroïques de notre staff encore bien peu étoffé, une première mouture du Recovery Act a été rédigée, examinée en commission et soumise au vote en séance plénière. Tout cela avant la fin de ma première semaine en poste. Nous avons estimé que c'était un petit miracle. L'enthousiasme des démocrates de la Chambre concernant les points centraux du plan de relance a bien aidé, même si cela ne les a pas empêchés de ronchonner sur tout un tas de détails. Les réformistes se sont plaints que les réductions d'impôts concédées aux entreprises étaient des cadeaux faits aux riches. Les démocrates plus centristes s'inquiétaient de l'effet qu'aurait l'ardoise sur leurs électeurs les plus conservateurs. Des élus de toutes tendances se sont plaints que les aides directes aux États aiderait les gouverneurs républicains à équilibrer leur budget et à vanter leur saine gestion financière, alors que ces mêmes gouverneurs accusaient le Congrès de dépenser sans compter. Ce type de grogne mesquine était tout à fait prévisible dans le contexte d'une réforme législative de grande ampleur, indépendamment de qui était à la Maison-Blanche. Les démocrates étaient fort coutumiers du fait, eux qui, pour toutes sortes de raisons, une représentation sociologique plus variée, une plus grande aversion vis-à-vis de l'autorité, semblait éprouver une joie presque perverse à se montrer indiscipliné et à ne pas parler d'une seule voix. Quand de tels griefs ont fuité dans la presse et que des journalistes ont monté en épingle une poignée de commentaires épars pour y voir de possibles signes de dissension dans nos rangs, Ram et moi n'avons pas manqué de passer un coup de fil aux pires séditieux pour tout simplement leur expliquer, sans détour et parfois en des termes que la décence interdit de répéter, en quoi des gros titres comme « Des démocrates influents désinglent le plan de relance d'Obama » ou « Les démocrates annoncent clairement qu'ils défendront leur territoire » ne servaient pas véritablement notre cause. Notre message a été reçu. Nous avons fait quelques concessions à la marge dans le projet de loi, augmenté les fonds pour des priorités du Congrès, taillé dans des sommes qui nous étaient initialement allouées. En définitive, le projet de loi comprenait pas loin de 90% de ce que notre équipe économique avait originellement proposé, et nous avions réussi à éviter les fonds réservés et la gabegie qui l'aurait discrédité aux yeux du grand public. Il manquait juste une chose, le soutien des Républicains. Depuis le début, aucun d'entre nous n'était très optimiste pour ce qui était de récupérer une grosse part du vote républicain, surtout sachant que des milliards avaient été dépensés pour le sauvetage financier. La plupart des républicains de la Chambre avaient voté contre le TARP, malgré la forte pression exercée par le président, issue de leur propre parti. Ceux qui avaient voté pour continuaient d'essuyer des critiques cinglantes de la droite, et l'idée se répandait dans les cercles républicains qu'une des raisons pour lesquelles ils avaient obtenu de si piteux résultats aux élections qui avaient suivi était qu'ils avaient laissé le président les écarter de leurs principes conservateurs non interventionnistes. Néanmoins, en sortant de notre réunion début janvier avec les chefs de file du Congrès, j'avais demandé à mon équipe d'intensifier nos efforts du côté des Républicains. Pas juste pour les apparences, avais-je insisté. Essayez pour de vrai. Cela exaspérait certains démocrates, en particulier à la Chambre. Dans l'opposition depuis une décennie, les démocrates de la Chambre avaient été pendant toute cette période totalement exclus du processus législatif. Désormais aux manettes, ils n'étaient pas d'humeur à offrir des concessions à leurs persécuteurs. Ils estimaient que je perdais mon temps, que j'étais naïf. « Ces républicains, ça ne les intéresse pas de collaborer avec vous, monsieur le président », m'a dit un parlementaire du but en blanc. « Ce qu'ils veulent, c'est vous briser. » Je me suis dit qu'ils avaient peut-être raison, mais à divers titres, il me semblait qu'il était important au moins de mettre mon hypothèse à l'épreuve. Obtenir les deux votes républicains nécessaires pour avoir au Sénat une majorité qui nous mettrait à l'abri d'une manœuvre d'obstruction serait bien plus facile, je le savais, si nous obtenions d'abord un score correct auprès des républicains à la Chambre. « Plus on est nombreux, plus on est en sécurité », étant l'adage qui gouvernait la vie de presque tout politicien à Washington. Les votes républicains nous procureraient en outre un matelas de sécurité bien utile vis-à-vis des élus démocrates de régions à tendance conservatrice, candidats à des réélections qui s'annonçaient d'ores et déjà délicates. Et puis, pour être honnête, le simple fait de négocier avec les républicains fournissait une excuse commode pour écarter les idées peu orthodoxes qui refaisaient périodiquement surface dans notre camp. Je suis navré, monsieur le député, mais la légalisation de la marijuana n'entre pas tout à fait dans la relance économique à l'ordre du jour. À mes yeux, cependant, tâcher de convaincre les élus républicains ne relevait pas seulement d'un calcul tactique. Depuis mon discours à la convention de Boston en 2004 et jusqu'au dernier jour de ma campagne, j'avais défendu l'idée que les citoyens dans tout le pays n'étaient pas aussi divisés que nos politiques le suggéraient et que pour faire de grandes choses, il nous fallait dépasser les oppositions partisanes. À cet effet, existait-il un meilleur moment pour faire l'effort honnête de tendre la main aux membres de l'opposition que lorsque nous étions en position de force, à une période où nous n'avions pas nécessairement besoin du soutien des républicains de la Chambre pour faire passer nos lois? Je me disais que peut-être, à condition de ne pas être borné et de faire preuve d'un peu d'humilité, je pourrais prendre par surprise les chefs de file du GOP, dissiper leurs soupçons et contribuer à bâtir une relation qui pourrait être utile sur d'autres questions. Et si, comme c'était le plus probable, cela ne fonctionnait pas et que les républicains rejetaient mon offre d'ouverture, alors au moins les électeurs sauraient à qui imputer les dysfonctionnements à Washington. Pour diriger notre bureau des affaires législatives, nous avions recruté Phil Schiliro, un ancien attaché parlementaire démocrate d'une habileté consommée. Il était grand, dégarni et avait un rire haut perché qui masquait une intensité discrète. Dès que le Congrès a été en session, Phil s'est mis en quête de partenaires avec qui négocier, faisant appel à moi, à Ram ou à Joe Biden, pour l'aider à courtiser des membres du Congrès lorsque c'était nécessaire. Quand certains républicains ont manifesté leur intérêt pour la construction de nouvelles infrastructures, nous leur avons demandé de nous fournir une liste de leurs priorités. Quand d'autres ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas voter pour une loi où l'on faisait passer des financements pour la contraception comme mesure d'un plan de relance, nous avons fait pression auprès des démocrates pour qu'ils suppriment la disposition. Quand Éric Cantor a proposé une modification raisonnable à l'une de nos dispositions fiscales, en dépit du fait qu'il n'y avait aucune chance qu'il vote la loi, j'ai demandé à mon équipe d'effectuer le changement, souhaitant leur signifier de manière claire que nous étions sérieux lorsque nous affirmions que nous voulions que les Républicains s'assoient à la table des négociations. Et pourtant, les jours passaient et la perspective d'une coopération des Républicains ressemblait de plus en plus à un lointain mirage. Ceux qui avaient initialement exprimé un intérêt à l'idée de travailler avec nous ont cessé de nous rappeler. Les Républicains de la Commission des dotations budgétaires ont boycotté les audiences sur le Recovery Act au prétexte qu'ils n'étaient pas sérieusement consultés. Les attaques des Républicains dans la presse contre le projet de loi se sont faites moins mesurées. Joe a rapporté que Mitch McConnell avait rappelé tout le monde à l'ordre, allant jusqu'à empêcher les membres de son groupe parlementaire de parler à la Maison-Blanche du plan de relance. Et des élus démocrates à la Chambre ont rapporté avoir entendu la même chose de la part de leurs homologues du GOP. « On n'a pas le droit de jouer », c'est apparemment ainsi qu'un républicain a formulé la consigne. Les choses ne se présentaient certes pas sous les meilleurs auspices, mais je pensais avoir néanmoins une chance de gagner le soutien de quelques élus lors de mes réunions avec les groupes républicains à la Chambre et au Sénat, toutes deux prévues le 27 janvier, la veille du vote de la Chambre. J'ai pris du temps en plus pour préparer mon exposé, afin de connaître tous les chiffres sur le bout des doigts. Le matin du jour dit, Ram et Phil m'ont rejoint dans le bureau ovale pour passer en revue les arguments les plus convaincants que les Républicains pourraient nous opposer. Nous nous apprêtions à nous rendre au Capitole quand Gibbs et Axe sont entrés dans le bureau ovale et nous ont montré une dépêche d'Associated Press qui venait d'être publiée juste après la réunion de Bowner avec son camp. Les Républicains de la Chambre pressaient de s'opposer à la loi de relance. Quand est-ce que c'est tombé ? Ai-je demandé en survolant l'article. Il y a à peu près 5 minutes, a dit Gibbs. Est-ce que Benner a appelé pour nous avertir? Non, a dit Ram. Dans ce cas, ai-je tort de penser que ce truc n'est pas réglo? Ai-je demandé tandis que nous sortions en groupe, nous dirigeant vers la bête. Non, vous n'avez pas tort, monsieur le président, a répondu Ram. Les réunions des groupes républicains n'ont pas, à proprement parler, été ouvertement hostiles. Benner, Cantor et Mike Pence, le président du groupe des républicains à la Chambre, étaient déjà au pupitre quand je suis arrivé, évitant ainsi habilement une discussion privée sur le coup qu'ils venaient de nous faire. Et après la brève présentation de Benner et quelques applaudissements polis, je me suis avancé pour prendre la parole. C'était la première fois que je m'adressais au groupe parlementaire des Républicains de la Chambre, et il était difficile de ne pas être frappé par l'uniformité des gens présents dans la salle. Des rangées et des rangées d'hommes blancs, pour la plupart assez âgés, une dizaine de femmes et peut-être 2 ou 3 hispaniques et asiatiques. La plupart sont restés de marbre pendant que je présentais brièvement le plan de relance, citant les derniers chiffres relatifs à l'effondrement de l'économie, insistant sur la nécessité d'agir vite, et rappelant que figuraient dans notre plan des baisses d'impôts que les Républicains réclamaient de longue date et notre engagement sur une réduction du déficit à long terme, une fois que la crise serait passée. Le public est sorti de sa torpeur quand j'ai demandé s'il y avait des questions, en réalité pour être plus précis, plutôt des arguments présentés sous forme de questions, et à toutes j'ai répondu de bon cœur, comme si mes réponses comptaient. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que cette loi n'envisage aucune mesure contre les lois parrainées par les démocrates qui ont obligé les banques à concéder des prêts immobiliers à des emprunteurs ne présentant pas les garanties requises et qui sont la cause réelle de la crise financière? Applaudissements. Monsieur le Président, j'ai un livre pour vous qui prouve que le New Deal n'a pas mis fin à la dépression, mais a au contraire aggravé les choses. Êtes-vous d'accord pour dire que la prétendue relance des démocrates ne consiste qu'à répéter ses erreurs et plongera les générations futures dans le rouge jusqu'au cou? Applaudissements. Monsieur le Président, allez-vous demander à Nancy Pelosi de laisser tomber son projet de loi partisan et de repartir de zéro avec un processus vraiment ouvert, comme le réclame le peuple américain? Acclamations, applaudissements, quelques huées. Côté Sénat, le cadre m'a paru moins guindé. Joe et moi avons été invités à nous asseoir à une table en compagnie de la 40aine de sénateurs présents, d'anciens homologues pour beaucoup d'entre eux. Mais dans le fond, la réunion n'a pas été si différente. Chaque républicain qui s'est donné la peine de prendre la parole a entonné le même refrain, décrivant la relance comme un renflouement à géométrie variable qui profiterait surtout aux démocrates et exploserait le budget. Aussi, les démocrates devaient-ils commencer par revoir leur copie s'ils voulaient obtenir la moindre coopération. Sur le trajet du retour à la Maison-Blanche, Ram était furieux, Phil abattu. Je leur ai dit que ce n'était pas grave, qu'en fait, j'avais apprécié ces échanges. « Vous pensez qu'on peut encore gagner combien de républicains ? » ai-je demandé. « 12 si on a de la chance, » a dit Ram en haussant les épaules. C'était là une estimation bien optimiste. Le lendemain, le Recovery Act était voté à la Chambre avec 244 voix pour et 188 voix contre, avec précisément zéro vote républicain. C'était la première salve d'un plan de bataille que McConnell, Boehner, Cantor et consorts allaient déployer avec une impressionnante discipline au cours des 8 années à venir. Le refus absolu de travailler avec moi ou les membres de mon gouvernement, quelles que soient les circonstances, quel que soit le sujet, sans se soucier des conséquences pour le pays.